10h04, on vous souhaite la bienvenue ici sur Demoiselle. Si vous nous rejoignez, c'est parti jusqu'à 11h pour votre émission Parole d'animaux, présentée, ça ne change pas, par Rachel. Bonjour Rachel.
Bonjour Pierre, ça va ?
Ça va et vous ?
Bah ouais, très bien. Bon,
la semaine s'est bien passée ?
Oui, très très bien. Et puis là, c'est la dernière émission de la saison.
Eh ben oui, déjà.
Voilà, déjà, effectivement.
Déjà, ça passe extrêmement vite.
Au mois de décembre, on n'en aura pas et on repartira au mois de janvier.
Eh ben écoutez...
Oui, je serai encore là.
Voilà. Normalement, je serai encore là, il n'y a pas de problème. Alors, qu'est-ce qu'on a au programme aujourd'hui, Rachel ? Dites-nous tout.
Alors, on y va. Donc, Parole d'animaux, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Parole d'animaux, l'émission qui donne la parole aussi à celles et ceux qui œuvrent chaque jour pour le bien-être de nos compagnons à quatre pattes. Aujourd'hui, nous allons plonger au cœur d'un sujet essentiel, la protection et la gestion des chats errants sur le territoire de La Rochelle et son agglomération. Pour en parler, nous avons la chance d'accueillir une invitée engagée, passionnée, essentielle pour le fonctionnement de sa structure, Nadia, bénévole de l'association Planning Chat, association active depuis 20 ans sur l'agglomération de La Rochelle. Bonjour Nadia.
Bonjour Rachel.
Ensemble, nous allons comprendre leur mission, leurs défis et comment chacun d'entre nous peut agir pour améliorer la vie de ces animaux souvent invisibles, mais bien présents autour de nous. Avant d'entrer dans le cœur de vos actions, j'aimerais qu'on prenne un moment pour mieux vous connaître. Alors, pour commencer, pouvez-vous vous présenter, Nadia ?
Oui, bien sûr. Donc, je m'appelle Nadia, je suis rochelaise. J'ai donc œuvré pendant mon activité. Pour l'association depuis 2020. En fin de compte, je suis rentrée à cette association et depuis, je n'ai pas quitté. Hein. On trouve toujours de nouvelles missions. On s'engage davantage, un petit peu plus, presque chaque jour.
Et ce sont des missions essentielles, hein, puisque c'est la protection animale.
Absolument,
donc, pour
la protection animale.
C'est difficile d'arrêter, je pense. Alors Nadia, depuis combien de temps êtes-vous engagée dans Planning Chat et quelles étaient vos premières missions surtout et quelles sont celles que vous occupez aujourd'hui ?
Voilà, donc ça fait 5 ans hein, que, mm-hmm. je suis dans cette association. Donc au début, je suis rentrée pour m'occuper de tâches administratives, hein, de l'enregistrement de factures essentiellement. Et donc je suis rentrée au conseil d'administration en début d'année, au mois de mars dernier. Je fais du nourrissage à domicile, je m'occupe également des collectes de nourriture. Occasionnellement, je capture des chats qu'il faut stériliser. Et depuis peu, je suis famille d'accueil.
Très bien. Et comment s'organise cette polyvalence ?
Eh bien, c'est assez facile, en fait. Hein. Bon, pour ce qui est des tâches administratives, il n'y a rien de plus simple que de s'occuper de ça chez soi sur son ordinateur. En ce qui concerne les actions sur le terrain, eh bien, donc pour participer aux collectes de nourriture, donc c'est une fois par mois pendant 2 jours.
Hein,
donc, avec deux autres bénévoles, je m'occupe de récolter, de comptabiliser les dons de nos généreux donateurs. Ensuite, pour ce qui est du nourrissage à domicile, ça c'est occasionnel, hein. Il y a quelqu'un donc qui reçoit des appels, des demandes de propriétaires qui ont besoin de quelqu'un parce qu'ils s'en vont quelques jours, ils ont besoin de quelqu'un pour nourrir leur chat. Bon, après pour les captures, c'est vraiment très occasionnel, hein. Ça arrive 2 ou 3 fois dans l'année, donc on s'adapte avec les autres bénévoles, voilà.
Bon, bah, très bien, et pouvez-vous donc présenter rapidement l'association Planning Chat?
Alors oui, bien sûr. Donc cette association a été créée il y a 20 ans, hein, par des personnes qui ont constaté sur le secteur de leur quartier qu'il y avait beaucoup de chats errants, ça les gênait. Donc elles ont imaginé créer cette association dans le but d'endiguer la prolifération de ces chats errants, donc de les stériliser. Donc elles ont créé cette association.
D'accord.
Et donc aujourd'hui, on est un petit peu plus de 300 adhérents.
Ah oui, quand même, 300 adhérents. Ah, c'est une grosse association. Hein,
ça devient une grosse association.
Ah, oui. Donc, comme quoi, c'est vraiment une association utile, hein, puisque
voilà.
S'il y a autant d'adhérents. D'accord. Et quels sont les grands objectifs de Planning Chat ?
Eh bien, donc, dans les grands objectifs de Planning Chat, nous l'avons vu, c'est de réguler la population de ces chats qui vivent dehors. pour vous donner quelques chiffres, donc on en stérilisait il y a 2 ans jusqu'à 460.
D'accord.
L'an dernier, on était passé à 420. Et cette année, normalement, on devrait pouvoir, d'après les prévisions, être en dessous des 400. Donc je pense que ça peut être encourageant. Est-ce qu'il faut y voir simplement qu'il y a moins de chats dans la nature ? Je n'en sais rien. En tout cas, est-ce que c'est nos actions qui font que ça commence à profiter ? Je ne sais pas, c'est difficile à dire, mais en tout cas, c'est encourageant.
On verra dans quelques années, ça sera là où vous pourrez faire le bilan. Mais à mon avis, c'est vos actions, hein, je pense. Et sur quel territoire intervenez-vous ?
Pardon ?
Sur quel territoire intervenez-vous ?
Alors, nous, notre... au départ, c'était uniquement sur la CDA de La Rochelle, pour des raisons de logistique, hein, parce qu'il faut bien voir qu'on ne peut pas s'étaler, aller chercher des chats à 50
km. Oui, oui.
Donc, on s'est volontairement limité à la CDA de La Rochelle. Mais néanmoins, on aimerait bien qu'il y ait d'autres structures qui prennent le relais sur les communes et les secteurs environnants.
D'accord. Ok, donc avoir un petit peu d'aide des autres associations. Quoi.
Alors, d'autres associations, bien sûr, pour avoir un échange interactif.
Voilà, d'accord.
Mais également, si d'autres structures veulent se créer, nous sommes à leur disposition pour les aider à, les mettre en place.
Parfait, merci. Alors, on comprend déjà qu'il y a beaucoup de responsabilités, une organisation très bien rodée. Nous allons marquer une courte pause avant d'aborder vos actions. À tout de suite sur Demoiselle FM.
Il est 10h14, très bon samedi avec nous ici sur Demoiselle, suite de votre émission Parole d'animaux avec vous Rachel, et ce matin, eh bien on parle des petits matous, on parle de l'association, j'avais envie de dire le mot matou, hein. Me demandez pas pourquoi.
Avec Planning Chat.
Exactement, à La Rochelle.
Alors de retour dans Parole d'animaux, on continue notre conversation aux côtés de Nadia. Alors Nadia, comment est structurée votre équipe de bénévoles ?
Eh bien pour commencer, je dirais que nous avons 2 catégories d'activités. Celle qui implique le contact avec des chats et l'autre pas.
D'accord.
Pour la catégorie donc, qui est faite avec des activités avec des chats, nous en avons 3 types. Les vide-greniers, les collectes et les paquets cadeaux.
Okay.
Pour ces 3 activités, donc, nous avons une 40aine de bénévoles en général qui sont en permanent, je pourrais dire. Hein. Et donc chacun peut choisir une ou plusieurs activités. Par exemple, certains trouvent leur épanouissement en participant au vide-grenier, quand d'autres préfèrent participer aux collectes ou uniquement aux paquets cadeaux en fin d'année à Noël. Après, nous avons une autre activité donc, qui est au contact des chats, une autre catégorie en tout cas, qui comprend les personnes qui veulent être familles d'accueil, celles qui veulent faire du nourrissage à domicile ou nourrir les chats qui sont dehors, des chats errants. Et la dernière activité, c'est la capture donc, de ces animaux qui sont errants et qu'il faut que nous stérilisions à tout prix. Donc voilà, donc, plusieurs de nos bénévoles sont polyvalents et participent à plusieurs de ces activités selon leur disponibilité, mais ils ne peuvent pas toujours se libérer. C'est pourquoi nous avons besoin d'en trouver de nouveaux, même ponctuellement, selon leurs envies, leurs affinités par rapport à toutes ces activités.
Ah oui, c'est très bien organisé hein, cette association. C'est vrai que tout bénévole peut trouver son compte, en fin de compte, dans cette structure. Hein.
Absolument.
Ah oui, c'est très bien. Et rencontrez-vous des difficultés pour convaincre davantage de communes de soutenir vos actions, justement ?
Eh bien, je dirais qu'il y a 2 cas de figure. Hein. Les réponses qui nous sont faites sont souvent la première, c'est la question budgétaire. Hein. Les budgets sont à la baisse, donc on ne peut pas nous aider. Oui. Mais en fin de compte, c'est le principal sujet, c'est de sensibiliser donc, les personnes à la cause animale. Si on a un interlocuteur dans la commune qui est sensibilisé à cette cause, c'est beaucoup plus facile. Il faudrait qu'il soit sensibilisé parce que c'est un enjeu sanitaire important et de plus en plus un sujet de conflit entre concitoyens. Donc il faut se prendre ce sujet à bras le corps.
Exactement. Alors maintenant que l'on comprend mieux votre fonctionnement, parlons du travail concret que vous menez sur le terrain. Quelles sont les actions menées régulièrement ?
Alors, je commencerai donc par les captures qui sont ponctuelles, hein, c'est sûr, mais bon, on y signale un endroit, des chats qui sont errants. Donc, il faut organiser ce piégeage du début où on pose le piège jusqu'au moment où on va redonner l'animal donc, sur son terrain. Entre-temps, il sera passé entre les mains du vétérinaire qui aura vérifié son état de santé, l'aura soigné si besoin et surtout l'aura stérilisé et identifié. Ensuite, en ce qui concerne le nourrissage à domicile, c'est une activité qui a lieu notamment pendant les vacances scolaires pour des propriétaires donc, qui ont besoin de s'absenter et qui nous confient leur petit chat. Là, en l'occurrence, pour faire ce genre d'activité, je précise quelque chose, c'est qu'il faut absolument être adhérent, puisqu'on confie quand même un domicile, donc il faut être adhérent. Voilà, alors après, on fonctionne, on choisit d'œuvrer dans notre quartier, c'est quand même le plus simple. Mais si on le veut, on peut élargir notre secteur d'action. Et puis en ce qui concerne les familles d'accueil, eh bien, ces familles doivent s'engager par contrat. Elles ont la responsabilité d'un ou plusieurs chats. C'est un processus qui est mis en place après qu'on ait vérifié qu'il y ait bien toutes les garanties à domicile. Hein. Bon, ce n'est pas très, très contraignant, mais bon, il faut quand même qu'on puisse être sûr que le chat sera placé là où il faut. Une visite à domicile chez l'accueillant est toujours indispensable dans ce cas-là. Je précise qu'un chat n'a pas vocation à rester plus de 18 mois en famille d'accueil. Hein. Il doit être mis à l'adoption dès qu'il est prêt via notre site internet. Une famille peut accueillir plusieurs chats, surtout des fratries quand ils sont tout petits, et peuvent faire des pauses entre deux missions. Ce n'est pas une obligation de faire tout le temps de la famille d'accueil. Hein. C'est pas une contrainte. Voilà, donc si vous souhaitez trouver un chat à l'adoption, d'ailleurs, vous visitez notre site internet dont je vous donnerai les coordonnées un petit peu plus tard.
Voilà, la fin de l'émission, effectivement.
Également, les collectes de nourriture. Alors, elles sont organisées une fois par mois sur deux jours. Là, par exemple, aujourd'hui, c'est à l'Intermarché de la Palisse. Donc, hier et aujourd'hui. Toute la journée, vous pouvez aller à l'Intermarché de la Palisse et acheter des nourritures pour les chats. Nous avons des bénévoles qui récolteront vos dons.
Voilà, au marché de la Palisse qui est à La Rochelle. Hein.
Alors, à l'Intermarché de la Palisse qui est à La Rochelle, absolument.
Très bien.
Alors, en ce qui concerne les vides-greniers, ça c'est une activité qui a lieu 4 fois par an, sur 2 jours, donc le samedi et le dimanche. Le prochain et dernier vide-grenier de l'année aura lieu le 5 et 6 décembre, également à la Palisse, à la salle des fêtes de la Palisse, boulevard Émile Delmas, à La Rochelle. Alors, on a besoin de bénévoles sur des créneaux de à peu près 2 à 3 heures hein, pour toutes ces activités. Est-ce qu'il faut un roulement ? On ne peut pas obliger quelqu'un, bien sûr, à être là toute la journée. Voilà. Et puis alors, par contre, pour les paquets cadeaux, qui durent une douzaine de jours à Noël, là, il y a encore quelques créneaux de disponibles. Donc, si vous avez l'intention de prêter votre contribution pendant 2 ou 3 heures, pendant un petit peu avant les fêtes, une dizaine de jours avant les fêtes, vous pouvez également nous contacter. Nous vous accueillerons avec plaisir.
Bon, va très bien.
Donc, ces 3 activités peuvent intéresser les auditeurs. Alors, un petit mail, par exemple, à planningchat@yahoo.fr pour nous dire ce que vous souhaitez et pouvez faire.
Bon, bah, très bien. Bah, c'est bien expliqué en détail. Bah, merci, Nadia. Et pouvez-vous expliquer donc la logistique nécessaire pour transporter les chats, organiser les captures, gérer les urgences ? Que vous faites ?
Oui, alors le transport des chats n'a lieu que pour conduire le petit félin chez le vétérinaire hein, ou aller le rechercher. Soit le chat est capturé dans la nature et il doit être stérilisé et identifié, parfois soigné. Donc s'il est en famille d'accueil et qu'il a besoin de soins, ça c'est encore un deuxième cas. Pour cela, le bénévole utilisera une cage de transport et son propre véhicule. C'est toujours en journée, hein, rarement le week-end, hein, sauf s'il y a des urgences. Mais dans ce cas-là, nous avons toujours un vétérinaire de garde.
Oui, voilà. D'accord. Très bien. Et quel est le rôle des nourriciers ? Et comment vous collectez la nourriture ?
Alors, donc, ces collectes de nourriture, comme je viens d'en parler, donc, se déroulent sur 2 jours. On a un contact avec plusieurs grandes surfaces de la CDA qui nous accueillent. Donc, une fois par mois, on a une grande surface qui nous reçoit, qui nous accueille dans son hall d'entrée.
D'accord.
Nous remercions d'ailleurs toutes ces grandes surfaces pour leur partenariat. Comme je viens de l'expliquer, donc plusieurs bénévoles se relaient pour recevoir les dons de croquettes, de pâtés. Une bénévole assure en fin de journée le chargement et le transport des dons avec son véhicule jusqu'au box de stockage qui se trouve en périphérie de La Rochelle avec l'aide de deux autres bénévoles dont je fais partie.
Bon, très bien.
Donc, chaque premier samedi du mois, c'est une autre bénévole, Brigitte, qui veille d'ailleurs depuis plusieurs années à une juste distribution auprès des nourriciers. Donc, il se présente ce premier samedi du mois au box et donc elle distribue selon une répartition hein, par nombre de chats qu'il y a à nourrir. Je dois préciser que nous ne pouvons donner que ce que nous recevons, malheureusement. Mmh. Cela permet d'ailleurs aux nourriciers, quand ils nourrissent ces chats qui sont dehors, de surveiller leur état de santé, qui parfois peut nécessiter qu'ils soient capturés pour être soignés. Ces chats appartiennent à l'association et ils ont été identifiés à son nom. Il est important de le préciser. Identifiés et stérilisés.
Très bien. Et parlons maintenant donc d'un sujet central dans vos actions, la stérilisation. Alors, pourquoi est-elle indispensable pour limiter la prolifération ?
Eh bien, pour une raison très simple, c'est qu'une femelle peut donner naissance à 15 chatons par an, qui donneront naissance chaque année à autant de fois 15 chatons qu'il y aura de femelles dans la portée.
C'est ça.
Donc, on démarre avec un chat, puis après 15 chats, puis 40 chats, puis 150 chats. Enfin, voilà, c'est exponentiel. Hein. Donc, l'idéal est de stériliser les chats dès 6 mois, car dès qu'une femelle est stérilisée, évidemment, elle ne fera pas de petits. Donc, la stérilisation des mâles contribue à éviter des portées avec des femelles non encore stérilisées, mais il faut absolument stériliser le plus tôt possible.
Mais justement, quelles sont les principales causes de la prolifération des chats errants, selon vous ?
Eh bien, ça peut être le défaut de stérilisation, bien sûr. Hein, si on tarde de trop, ben, on a fait déjà une portée, c'est trop tard. Hein, on a déjà 15 chats de plus sur le terrain. Il y a également des personnes hein, qui n'ont aucune idée de ce que peut être cette exponentialité. Donc, elles gardent chez elles des animaux, d'ailleurs souvent pas que des chats, des chiens, des volatiles, et les laissent vivre sur leur terrain, dans leur jardin, et ils prolifèrent, etc. Puis à un moment donné, ils sont dépassés, ils appellent Planning Chat, et voilà. Et après, ben, il faut piéger, stériliser, etc. Bon, s'il n'y a qu'un chat, c'est 2000 euros hein, que ça nous coûte à l'association pour stériliser et identifier une quinzaine de chats.
C'est ça.
Donc c'est important d'agir le plus tôt possible. Alors il y a également le côté des abandons. Ça arrive malheureusement, c'est dramatique. Il y a parfois des propriétaires qui ne veulent plus ou qui ne peuvent plus assumer leurs animaux. Il y en a qui trouvent qu'à passer 15 ans, c'est trop compliqué de les garder. Donc ils s'en débarrassent, ils les laissent dans la nature. Donc c'est le cas d'une chatte que j'ai récupérée justement il y a très peu de temps. Il y a également une famille qui a déménagé et puis qui a préféré renfermer son chat dans l'appartement sans boire ni manger pendant 15 jours avant que quelqu'un s'en préoccupe. C'est ignoble.
Ah ben c'est sûr.
Alors il y a également les chats oubliés dans les campings. On part en vacances et puis quand on repart, le chat n'est pas toujours là. Donc on ne s'en occupe plus, on le laisse là et puis il reste dans le camping. Alors il y a des cas différents, des gens qui sont obligés de partir en EHPAD par exemple, hein, donc le chat est âgé souvent aussi, ou parfois ces personnes décèdent et puis les animaux sont à la maison, donc tout ça il faut qu'on trouve des solutions. Donc il y a vraiment différents cas de causes de prolifération de chats errants qui sont abandonnés dans la nature et voilà, et s'ils ne sont pas stérilisés, eh bien on les a sur les bras.
Bon, très bien, et comment convaincre les particuliers de faire stériliser leurs chats ?
Alors, ceux qui ont des chats depuis très longtemps, enfin qui ont des chats depuis des années, en principe, le vétérinaire les aura conseillés, ils auront été stérilisés. Pour cela, pour les autres, c'est assez difficile, ils ont l'habitude, ce chat a toujours été comme ça. Si c'est un mâle, ils n'éprouvent pas le besoin de le stériliser. Si c'est une femelle, Bon, ils s'en arrangent. S'il y a des chatons, ils essayent de les placer à droite, à gauche. Donc, ce n'est pas la bonne solution. C'est très difficile de convaincre les gens qui n'ont pas la fibre à cette problématique.
Oui, cette compréhension, en tout cas. On rappelle que l'identification est obligatoire. Pouvez-vous l'expliquer?
Bien sûr, oui, c'est important. C'est depuis une loi du 3 juillet 2011 que tous les animaux de compagnie, pas uniquement les chats, doivent être enregistrés dans un fichier qui s'appelle ICAD, hein, c'est l'identification des carnivores domestiques en France. Ce fichier est géré donc par cette société ICAD, et qui est placée sous la délégation du ministère de l'Agriculture. On attribue un numéro soit par tatouage, soit par puce électronique, et donc cet animal gardera comme nous notre numéro de sécurité sociale. D'accord. Toute sa vie. Chez nous, c'est Marie-Laure qui se charge de cette mission et donc qui s'occupe de mettre à jour le fichier, les changements de propriétaire, les nouvelles identifications ou les décès.
D'accord, très bien. Et puis dernière question, quel est le coût moyen d'une stérilisation?
Alors, quand on capture un chat, on le stérilise et on l'identifie. Et les deux opérations, les deux actions, nous coûtent environ 130 euros. C'est une moyenne, car les frais varient selon le sexe du chat, bien sûr, et le cabinet vétérinaire qui intervient. Évidemment, un mâle, on le stérilise en 20 minutes, alors qu'une femelle va rester au moins une douzaine d'heures sous surveillance. Mais il n'y a pas que ça. Un chat capturé par nos soins, on doit également le tester FIV. Alors le FIV, c'est un virus, c'est un peu le sida de l'humain. Oui, oui. Et c'est une maladie qu'on ne peut pas guérir. Donc quand un chat, malheureusement, est capturé FIV, qu'il est dans la nature, on est obligé malheureusement de l'euthanasier. S'il appartient à un particulier, bien sûr, il doit être isolé pour ne pas, parce que c'est très contagieux.
Bon, très bien. Alors, nous voyons que vos missions sont nombreuses et complexes. Alors, nous marquons une pause et on se retrouve juste après les informations. À tout de suite.
Allez, 10h36 sur Demoiselle, soyez les bienvenus, suite de votre émission Parole d'animaux. Et on laisse, entre guillemets, les chats de côté. On file du côté de Ménigout avec vous, Rachel.
Exactement. Alors aujourd'hui, pour la News Info, Pierre, je vous amène donc hors département les Deux-Sèvres. Alors pourquoi partir dans ce département à 1h30 de Rochefort? Pour quelles raisons? Qu'est-ce qui nous a motivés, Chloé et moi, à partir là-bas pour Parole d'animaux? Eh bien, je vous emmène dans cette News Info avec moi au 41e Festival international du film ornithologique de Ménigout, qui s'est déroulé du 28 octobre au 2 novembre. Pour ceux qui ne connaissent pas, ce festival est né en 1985, créé par Dominique Brouard et organisé par l'association MENAT, c'est-à-dire le Ménigout Animation Internationale Nature Environnement. Un véritable rendez-vous annuel du documentaire animalier. Ce sont donc des projections, mais aussi des expositions, des conférences et des animations qui composent ce festival. Pour tous les amoureux de nature et naturalistes, c'est le rendez-vous à ne pas manquer. Dans ce numéro, j'ai choisi de parler du salon d'art animalier et de mettre en valeur des artistes qui ont bien voulu se confier à mon dictaphone pour Demoiselle FM. Je suis alors dans ce qu'on appelle le forum, une grande salle avec plusieurs panneaux où sont accrochés des œuvres. 23 exposants parmi les 87 sont là pour nous faire partager leur passion. Du fait qu'ils soient très sollicités, j'attends mon tour et m'approche de ceux et celles qui m'aspirent par leur talent. Tous doués, mais vous le savez, l'art communique avec notre âme et certaines créations vont nous interpeller plus que d'autres. Tout dépendra également des goûts et des attirances de chacun. Alors, intimidée, oui, je suis à la base, on ne dirait pas, je sais. Je m'avance vers une première personne. Une personne qui m'inspire confiance par son savoir-faire doux et expressif. Je parle de Cyriac Verbeek, qui pratique la sculpture. Je vois, j'observe, de nombreux animaux, chevreuils, lièvres, blaireaux, renards, semblent sortir tout droit d'une clairière et prêts à détaler ou au contraire restant là, paisibles, à interagir avec le visiteur. Des contrastes dus à des études d'observation sur le terrain. De nombreuses expressions dans le regard ou l'attitude ressortent de ces créations comme pour étudier le mouvement animal. Alors j'interroge Cyriac au sujet de cette matière, l'argile, qu'elle a su apprivoiser avec le temps pour en faire des êtres presque vivants et nés entre ses doigts. Nous l'écoutons.
Alors donc c'est de l'argile grès et du grès, donc c'est de la terre. Ce qui est agréable, moi, c'est le modelage, c'est-à-dire de sortir en fait une pièce, non pas de la tailler comme dans la sculpture, mais d'ajouter du matériau pour sortir en fait une espèce animale. Et c'est difficilement explicable, le rapport à l'argile, à la terre, c'est quelque chose de très agréable. Et l'idée, souvent je fais l'animal un peu proportionné et je lui donne l'attitude que je cherche, parce que je cherche toujours à lui donner le mouvement un mouvement que j'ai vu, que j'ai observé ou qui m'a marqué, et donc j'essaye de le reproduire, ce qui n'est pas toujours évident parce que bon, la terre est souple, hein. Tant qu'elle n'est pas cuite, elle est très souple. Donc ça, c'est l'avantage. Ensuite, ça devient l'étape la moins agréable, hein, c'est la cuisson, parce qu'elle pige. Hein. Je déteste défourner la pièce, parce que ça devient de la pierre, en fait. Et donc après, ça reprend vie avec les patines avec lesquelles je travaille, parce que j'ai un peu d'émail qui demande une deuxième cuisson, mais c'est surtout des patines, du brunois, de la rouille, des pâtes de rouille, des choses comme ça avec lesquelles je travaille. Et là, ça reprend à nouveau, je peux à nouveau faire vivre l'animal.
Mais ma question a été surtout, quel message veut-elle faire passer à travers ses créations exposées au Festival de Ménigoute et face au public? Est-ce juste montrer son talent sans rien d'autre? Eh bien, en réalité, Cyriaque, sensible elle aussi à la protection de la biodiversité, nous raconte pourquoi elle est là au festival à vous parler d'animaux, et ceci retranscrit aujourd'hui sur Demoiselle.
Ici, à Ménigoute, l'avantage, c'est que c'est vraiment un salon dédié. Donc, tout le monde est focalisé sur les enjeux naturalistes. Et, alors que dans certaines expositions ou festivals où je vais, qui sont plus tournés vers la sculpture, le modelage, enfin les arts en général, l'animalier est plus souvent anecdotique et un peu inattendu, et ça permet de parler des animaux, notamment il y a des blaireaux par exemple, parce que le renard tout le monde connaît mais s'en fait une image. C'est intéressant de dire, comme là c'est une exposition avec tous les animaux qui sont autour de chez moi, de parler de la faune environnante et d'en discuter, quoi, sensibiliser.
Quelques pas plus loin, ce sont des sculptures d'un autre genre, parfois nous plongeant dans le réel inventé, des photos qui nous transportent dans l'émerveillement, des battures et des dessins qui retranscrivent ce que le cerveau veut bien nous livrer à nous, le monde du vivant. Et je m'approche cette fois de Justin Pivetot, dont les aquarelles me font m'arrêter. J'analyse cette finesse dans les traits, ces croquis remplis d'ombre et de lumière qui nous font douter avec une certaine confusion entre le dessin et la photo. Alors je l'interroge, car cela m'intrigue. Pourquoi Justin est-il si attiré par l'aquarelle et le fusain dans le croquis naturaliste qu'il sait si bien représenter? Quel intérêt peut-il y trouver dans cette aventure de la création? Nous l'écoutons.
Ouais, alors principalement ces deux-là, parce que en fait c'est un petit peu les techniques du carnet de voyage, et c'est des outils qui sont très faciles à déplacer dehors pour observer sur le terrain et pouvoir dessiner. Et je trouve que l'aquarelle par exemple permet très très rapidement de constituer des ambiances et de jeter quelques pigments pour tout de suite avoir des fonds colorés qui vont correspondre un petit peu aux teintes qu'on retrouve dans la nature. J'aime de plus en plus voir comment l'aquarelle réagit avec l'eau, et ce que j'aime, c'est que quand je démarre, je ne sais pas encore à quoi ça va ressembler. Alors que quand on démarre une peinture à l'acrylique ou à l'huile, alors c'est pas toujours le cas, mais si on a une idée en tête, on peut réussir à l'atteindre. Alors qu'avec l'aquarelle, il y a une grande part d'imprévu qui survient, et moi j'aime bien ne pas savoir tout de suite ce que ça va donner et voir se passer les choses.
Alors, pardon, excusez-moi. Justin Pivetot a reçu même le trophée de l'art pour la nature, prix Coup de crayon, qui est attribué à la Chevêchette d'Europe. Je vous invite à aller voir l'œuvre sur sa page Facebook et même du Festival international du film ornithologique Ménigoute. Un tableau qui nous laisse sans voix, tant impressionné par ce savoir-faire et cette patience face à une nature pourtant en éternel mouvement. Et puis je finis donc mon petit parcours par la photographie animalière. Tellement de talents, des talents diversifiés qui nous captivent. Mais j'ai dû faire un choix et je me suis donc intéressée à l'invité d'honneur du Festival de Ménigoute, Guillaume François. Guillaume François et Amélie Sabanovic, sa compagne, sont tous deux naturalistes. Ils ont grandi au plus près de la nature afin d'en connaître les espèces, parfois par cœur, dans l'instant d'une capture d'image. À pas feutré est le nouveau livre de Guillaume qui retrace 3000 jours à l'affût de la vie sauvage et retranscrit seulement en 224 pages. De nombreuses espèces font partie de plusieurs années d'observation comme le lynx boréal. Croquis naturaliste, aquarelle et photographie composent ce livre qui émerveillera vos yeux. De plus, je cite, les droits d'auteur sont reversés à l'association Je suis sensible et permettent de financer des actions concrètes pour le vivant. L'association a été fondée par Guillaume et Amélie pour, je cite à nouveau, financer de nouvelles actions de sauvegarde des espèces sauvages et des habitats naturels. Alors, si vous ne savez pas quoi offrir à Noël à l'un de vos proches, courez acheter ce livre À pas feutré de Guillaume François, disponible aussi sur Ulule, ou bien n'hésitez pas à visiter sa page Facebook. En attendant, j'ai voulu savoir qui étaient ces deux naturalistes chevronnés et je me suis donc approchée de Guillaume qui a bien voulu me parler de sa passion, la photographie, et de ce prédateur qui le fascine tant, le lynx boréal. Nous l'écoutons.
Alors la photographie, c'est à la fois, pour moi c'est un outil qui m'a toujours J'ai toujours voulu en fait faire de l'image pour pouvoir évidemment sensibiliser, susciter l'émerveillement, mais aller au-delà de ça pour pouvoir préserver un petit peu ce qui nous entoure. J'ai toujours été attaché à la beauté, à la nature, de ce que je voyais déjà depuis tout petit, quand je passais par la lucarne de cette forêt de mon enfance pour essayer de voir les animaux. Et j'ai toujours voulu finalement utiliser la photographie comme un outil pour pouvoir aller plus loin dans la protection des espèces et des habitats. Oui, j'ai eu en effet la chance de grandir donc en face de la forêt, et à l'époque, donc dans les montagnes jurassiennes, à l'époque le lynx boréal, qui est le plus grand félin d'Europe, passait sous les fenêtres de la maison de mon enfance. Et dans ses pas, je ne le voyais jamais, puis à l'époque il n'y avait presque aucune image du lynx, dans ses pas il m'a finalement conduit à aller à sa rencontre, mais aussi à la rencontre de l'ensemble de ce monde vivant, et ça a été un moment extraordinaire de pouvoir côtoyer un petit peu cet animal qui est devenu presque un maître à penser, pour lequel on passe avec ma compagne un peu plus de 150 jours et nuits par an à l'affût.
Et puis Guillaume nous fait part aussi de sa liberté d'être ici au festival en tant qu'invité d'honneur, un festival regroupant de nombreux talents. Nous l'écoutons à nouveau.
On n'avait jamais eu l'occasion de venir à Ménigout, et par contre on en avait entendu beaucoup parler, même à l'autre bout de la France, et là où on se trouve. Ça faisait 10 ans que j'avais pas vraiment participé à un festival nature, et Hugo et Nathan Braconnier m'ont fait l'honneur de nous proposer cette place en tant qu'invité d'honneur, et c'était un plaisir de pouvoir y répondre, parce que on apprécie ces valeurs-là, et puis les valeurs de ces gens-là dont on adore, et puis l'éthique aussi du festival qui nous a plu. On est vraiment honorés de pouvoir être ici.
Toutes ces personnes passionnantes, fascinantes, étaient au festival de Ménigout. 120 professionnels présents. Quand on aime la nature et qu'on connaît les menaces qui pèsent sur la biodiversité, on ne peut être qu'impressionné par les actions de ces personnes. Passer des heures à en oublier le temps, donc, pour le vivant, pour le faire connaître et parfois pour le faire revivre. N'est-ce pas dans la simplicité et la magnificence que l'on trouve le bonheur ? Ce sont ainsi 250 bénévoles qui ont encadré ce festival. Alors le festival de Ménigout, qui a lieu chaque année à la même époque, vous offre de quoi vous occuper tout le week-end. Des stands avec des professionnels, des rencontres avec ces bénévoles qui sont présents sur le terrain toute l'année et qui sont dans cette nature qu'ils observent et défendent. Des films et des expos qui vous offrent du spectacle et de l'émerveillement, et plein d'autres choses encore. N'est-ce pas attirant tout ça ? Alors rendez-vous l'année prochaine à Ménigout, dans les Deux-Sèvres. Je compte sur vous. Tout de suite la publicité, on se retrouve juste après.
La radio d'ici, oh yeah. Demoiselle. 10h50, on attaque les 10 dernières minutes de cette émission avec vous, Rachel de Parole d'Animaux. Et on rappelle votre invité ce matin, vous avez Nadia de l'association Planning Chat à La Rochelle.
Exactement, de retour dans Parole d'Animaux, nous sommes toujours aux côtés de Nadia. Alors Nadia, une question importante, comment financez-vous vos actions ?
Ah oui, effectivement, une question importante. Eh bien, nous avons bien sûr d'abord les adhésions. Pour adhérer à Planning Chat, c'est 30 euros par an, qui ouvre droit d'ailleurs à une déduction d'impôt. Dans certains cas ponctuellement, d'autres adhérents, les adhérents, nous font des dons ponctuels ou voire mensuels. Nous avons également, avec la CDA, certaines communes de la CDA qui nous apportent des subventions. D'accord. Voire des prêts de salles ou des espaces de communication dans leurs publications locales. Nous avons également signé avec d'autres communes des conventions afin de pouvoir gérer la prolifération des chats sur leur périmètre. Nous les en remercions tant sur le plan financier que sur la prise de conscience partagée de ce fléau. Nous recevons également des dotations non négligeables de 30 millions d'amis et de la Fondation Brigitte Bardot qui nous permettent de soulager nos frais de stérilisation qui dépassent les 15 000 euros par mois. Nous les remercions chaleureusement toutes les deux. Il arrive également parfois que nous recevions de la part de personnes sensibles à la cause féline, des legs. Voilà.
D'accord.
Et puis on a également une activité très ponctuelle dont j'ai parlé déjà tout à l'heure, les paquets cadeaux, qui est sous la houlette de Noémie, notre collègue. Cette activité mobilise trop peu de volontaires malheureusement en raison de la période de Noël, mais c'est une action unique dans l'année. D'une dizaine de jours, qui se déroule sous les porches de La Rochelle devant le magasin Nature et Découverte. Si vous souhaitez y participer, contactez-nous, il reste encore des créneaux disponibles. Alors nous avons également le nourrissage à domicile dont j'ai déjà parlé, qui consiste à nourrir des chats chez eux pendant l'absence des propriétaires. Chaque repas servi à un chat, c'est 6 euros pour l'association. Et il faut 22 repas à domicile pour pouvoir financer la stérilisation et l'identification d'un seul chat. Et puis les vides-greniers, il ne faut pas oublier, c'est une activité également importante qui est donc faite par Cécile, Sylvie, Isabelle depuis des années. Donc cette activité se déroule tous les 4 mois à peu près sur un quartier de La Rochelle, soit Mireuil, soit La Palisse, comme c'est le cas donc dans 15 jours sur le secteur à la salle des fêtes de La Palisse. Voilà.
Bon, bah, très bien. Et de quoi avez-vous le plus besoin aujourd'hui ?
Eh bien, je dirais qu'aujourd'hui, ce dont nous avons le plus besoin, évidemment, c'est d'avoir davantage de bénévoles tous les domaines. Voilà, nous aimerions également trouver une oreille attentive de la part des communes qui ne nous soutiennent pas encore, un espace dans leur bulletin municipal ou la mise en place d'une convention pour stériliser les chats de leur espace public.
Eh oui, très bien. Et quel type d'aide attendez-vous maintenant pour agrandir votre équipe de bénévoles ?
Eh bien, je m'adresse à vos auditeurs, Rachel. Hein. Oui. Hormis les activités déjà décrites, vous pouvez aussi nous rejoindre dans le cadre d'un soutien administratif, juridique, commercial, comptable, informatique ou dans la communication. Le panel est large, il y en a pour tout le monde.
Il y a beaucoup de choses, effectivement. Quels sont vos projets futurs ?
Eh bien voilà, nous avons un beau projet, c'est que nous voulons préparer les générations futures à une vie plus harmonieuse avec les félins. C'est par la pédagogie, dès l'école, que nous trouverons les solutions pour demain. Nous sommes persuadés qu'avec leur concours, des progrès notables seront enregistrés.
Et pourquoi est-il important d'éduquer les enfants dès le plus jeune âge ?
Eh bien, tout simplement parce que expliquer aux enfants l'origine des chats, leur histoire et leur évolution aux côtés de l'homme, les légendes qui les ont accompagnés, c'est faire découvrir la vie du chat d'aujourd'hui. C'est par la pédagogie qu'on comprend et en comprenant qu'on avance.
Eh bien, c'est ça. Et les communes pourraient-elles jouer un rôle dans cette sensibilisation ?
Oui, bien sûr, parce que nous avons besoin du soutien des municipalités, car c'est une action qui requiert leur approbation, tant sur la cause logistique, que voilà, nous avons, parmi nos auditeurs, certainement, certains ont envie de s'investir dans ce défi, qui n'hésitent pas à nous contacter.
Alors justement, quel message avez-vous à faire passer, important ?
Bien, si on a un seul message à faire passer, c'est que avoir un chat, ça se décide. Un chat ne s'offre pas en cadeau. À l'approche de Noël, pensez-y.
Voilà, très bien. Très beau message d'ailleurs. Alors, quelles seraient, selon vous, les solutions durables pour améliorer la condition des chats errants en France ?
Eh bien, on n'éradiquera pas les chats errants, pas plus que les moustiques. Hein, et c'est d'ailleurs pas souhaitable, car ils ont leur place dans la nature.
Oui, c'est ça, exactement.
Leur effectif est contenu. Ils devraient pouvoir vivre heureux de cette manière. Une campagne nationale de capture et de stérilisation renouvelée périodiquement pourrait endiguer le phénomène. Peut-être un projet pour nos élus ?
Eh bien, pourquoi pas ? Et qu'est-ce qui vous motive encore aujourd'hui, malgré les difficultés ?
Oui, très bonne question. J'ai vécu avec une maxime qui dit que lorsqu'on veut quelque chose, on trouve les moyens. Et lorsqu'on ne veut pas, on ne trouve que des prétextes. Je la cite souvent autour de moi. La difficulté ne se règle pas par l'abandon.
Voilà,
le moteur, c'est la communication et l'organisation.
Voilà, tout à fait. Alors, comment les auditeurs peuvent-ils vous aider ?
Ah, alors, les auditeurs, eh bien, écoutez, le meilleur moyen, c'est qu'ils puissent prendre contact avec nous. Je leur demande de parler de nous autour de nous contacter si je leur ai donné envie de nous rejoindre ou si je n'ai pas été assez précise. Ils peuvent simplement apporter une aide matérielle ou faire fonctionner leur réseau.
Voilà, très bien. Et donc, c'était pas terminé, je vais couper la parole.
Oui. Non, mais c'était pour nous contacter, je voulais simplement donner nos coordonnées. Nous sommes présents sur Facebook, sur Instagram, et donc ils peuvent visiter également notre site internet sur planningchat17.fr. De toute façon, sur ce site, vous allez tout trouver, notre histoire, nos missions, nos besoins, les chats et les chatons qui attendent un foyer, les conditions pour adhérer, et ou pour être bénévole, tout y est.
Voilà.
Je vous remercie beaucoup. Je vous adresse un grand merci de nous avoir ouvert votre micro aujourd'hui.
Je vous en prie. Bon, très bien. Je rappelle juste le site internet, donc www.planningchat17.fr. Si vous voulez avoir plus d'informations ou contacter l'association, vous passez par le site internet. Merci beaucoup, Nadia, pour votre présence et pour votre engagement auprès des chats de notre territoire. Merci à vous, auditeurs, de nous avoir suivis dans cette émission de Paroles d'animaux. Et on se retrouve très bientôt, donc dès le mois de janvier, pour de nouveaux épisodes. Et d'ici là, prenez soin de vous et de vos animaux. À bientôt.